VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 4 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sollicite l'investiture de l'exécutif à l'Assemblée nationale.
En Afrique du Sud, 5 personnes ont perdu la vie dans des violences xénophobes que le président Cyril Ramaphosa a qualifiées d'inacceptables.
Au Mali, 14 passagers d'un autocar ont été tués dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays.
L'ouragan Dorian se dirige vers les États-Unis après avoir dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de 7 personnes.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson prépare des élections anticipées après une défaite cuisante hier au Parlement.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, premier oral du chef du gouvernement devant des députés nationaux, Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté mardi le programme de son gouvernement pour en solliciter l'investiture 7 mois après l'investiture du président Félix Tshisekedi. Un programme qui repose sur 15 piliers, mais qui est boudé par des députés de l'opposition qui ont d'ailleurs quitté la plénière en signe de protestation. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Devant 352 députés sur les 500 que compte l'Assemblée nationale et des partisans des partis de la majorité parlementaire, le Premier ministre a détaillé son programme qu'il décline en 15 axes. La pacification du pays, la promotion de l'état de droit et de la démocratie, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre la pauvreté en RDC sont entre autres les piliers qui fondent l'action de Sylvestre Ilunga. Le chef du gouvernement est aussi revenu sur la finalisation du processus électoral et a annoncé le rapatriement prochain des dépouilles de l'ancien président Mobutu et de l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe. Il s'en est suivi critiques, questions et recommandations des députés nationaux. Étape qui a vu les députés de l'opposition quitter la salle. Ils ont fustigé le fait que le document qui a été présenté par le Premier ministre ne soit pas celui qui était distribué préalablement aux députés nationaux. Ils n'assisteront donc pas à l'investiture du gouvernement qui devrait intervenir ce jeudi au terme des réponses du Premier ministre aux nombreuses questions et interventions des députés de sa famille politique. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, une trentaine de médias ont été fermés dans le pays, notamment dans le Kasaï et l'Équateur, a dit mardi à l'AFP Chivis Chivuadi, secrétaire général de Journalistes en danger. On leur reproche de n'avoir pas payé les taxes de la Direction générale des recettes administratives et domaniales, a-t-il expliqué. L'ONG a également dénoncé la recrudescence des attaques contre des journalistes depuis le début de l'année.
Au Mali, au moins 14 passagers d'une compagnie de transport privé ont été tués hier dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur autocar dans le centre du pays. L'autocar assurait la liaison entre la localité de Douentsa et Gao, plus grande ville du nord du Mali. L'information a été confirmée par une source policière selon laquelle l'explosion, survenue à une trentaine de kilomètres de Douentsa, a également fait 13 blessés.
En Afrique du Sud, 5 personnes ont été tuées dans les violences xénophobes qui secouent le pays depuis dimanche. Ces attaques et pillages ont été jugées totalement inacceptables par le président Cyril Ramaphosa. Le point avec Ekia Badou.
Après 3 jours de violence, la police a tiré hier des balles en caoutchouc pour empêcher de nouveaux pillages à Johannesburg. Les violences ont débuté dimanche dans cette ville après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment. Des centaines de magasins tenus par des étrangers ont été saccagés ou incendiés dans plusieurs quartiers de Johannesburg et Pretoria, la capitale. Dans la province du KwaZulu-Natal, des camions conduits par des étrangers ont été incendiés. D'après la police, plus de 189 personnes ont été arrêtées. Le président Cyril Ramaphosa a rompu le silence hier, disant que ces attaques visant des commerçants étrangers sont totalement inacceptables. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dénoncé les attaques abjectes De son côté, le président nigérian Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet de ces attaques contre les immigrés africains, notamment ceux venus du Nigeria, et a envoyé un émissaire spécial en Afrique du Sud.
Au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok doit annoncer d'ici jeudi le premier gouvernement du pays depuis la chute en avril du président Omar al-Béchir après 3 décennies au pouvoir. En attendant cette annonce, Abdallah Hamdok a appelé hier mardi Washington à retirer son pays de la liste des États soutenant le terrorisme. Le Soudan cherche à revenir sur la scène internationale et à relever son économie exsangue en attirant notamment des investissements étrangers.
En Tunisie, la justice a rejeté hier en appel une demande de libération du candidat à la présidentielle Nabil Karoui, en prison depuis 12 jours. C'est ce qu'ont indiqué ses avocats qui ont demandé que leur client puisse faire campagne comme les autres. Monsieur Karoui, un homme d'affaires qui était depuis 3 ans sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent, a été inculpé le 8 juillet, puis arrêté le 23 août. Ses partisans accusent le Premier ministre Youssef Chahed, l'un des rivaux de Monsieur Karoui à la présidentielle du 15 septembre, d'être derrière l'arrestation de ce dernier.
En Algérie, plusieurs centaines d'étudiants, accompagnés d'enseignants et de simples citoyens, ont manifesté mardi à Alger contre la tenue d'une élection présidentielle. Réclamée la veille par le chef d'état-major de l'armée algérienne, le président par intérim Abdelkader Ben Salah et le premier ministre Noureddine Bedoui doivent dégager, ont-ils martelé dans les rues d'Alger. Ils rejettent tout scrutin organisé par les proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril sous la pression d'un mouvement de contestation inédit.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'œil de l'ouragan Dorian pourrait bien ne pas toucher terre en Floride, mais cela ne signifie pas que les habitants de cet État ou ailleurs le long de la côte sud-est américaine peuvent baisser la garde. Selon la météo, l'ouragan gagne en taille et se rapprochera dangereusement près de la Floride et de la Géorgie d'ici à ce soir et menacera les Carolines du Nord et du Sud avec des pluies torrentielles et des vents violents. Dorian, rétrogradé en catégorie 2, a dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de 7 personnes.
Les États-Unis ont imposé hier des sanctions au programme spatial iranien, l'accusant de servir de couverture au programme de missiles balistiques de Téhéran. Les précisions d'Irénée Hermanoumo.
Le département d'État américain a sanctionné l'agence spatiale iranienne et 2 de ses instituts de recherche en dénonçant leur participation à la prolifération de missiles. Les États-Unis ne permettront pas à l'Iran d'utiliser son programme spatial comme couverture pour faire progresser ses programmes de missiles balistiques, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, précisant que c'est pour la première fois que l'agence a été inscrite sur une liste noire américaine pour de tels motifs. Il s'agit selon lui d'un avertissement à la communauté scientifique. Collaborer avec le programme spatial iranien pourrait contribuer à la capacité de Téhéran à développer un véhicule capable de lancer une arme nucléaire. Ces sanctions interviennent au moment où la France tente une médiation pour faire baisser les tensions entre les deux pays. Paris voudrait favoriser une rencontre directe entre les présidents américains et iraniens. Cependant, Hassan Rouhani, le président iranien, a par principe exclu hier des négociations bilatérales avec Washington. Téhéran réclame avant toute rencontre la levée des sanctions américaines. Les dernières mesures punitives viennent compliquer la tâche de la diplomatie française.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson se prépare à convoquer des élections législatives anticipées. Les députés lui ont infligé hier un désaveu cinglant en adoptant une motion en faveur d'un report du Brexit afin d'éviter une sortie de l'Union européenne sans accord. À l'issue de débats tendus à la Chambre des communes, les députés hostiles au Brexit sans accord ont remporté un vote crucial à 328 voix contre 301, leur permettant de prendre le contrôle de l'agenda parlementaire normalement détenu par le gouvernement. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. La minute éco, Nanit Salani.
Au Ghana, la production de pétrole devrait passer de 200 000 barils par jour à environ 420 000 barils par jour d'ici 2023. Le gouvernement espère que l'américain ExxonMobil et ses partenaires trouveront des quantités commerciales de pétrole dans le bloc Cape Three Point, dont le potentiel est très important. Le constructeur automobile japonais Toyota envisage l'installation d'une chaîne de montage en Angola pour un coût d'environ 200 millions de dollars, annonce l'agence Ecofin. L'infrastructure permettra d'assembler des véhicules, mais aussi de fabriquer des pièces détachées afin d'alimenter le marché intérieur. Au Kenya, la récolte de maïs atteindra 2,3 millions de tonnes en 2019-2020, soit 25% de moins que la saison précédente, rapporte l'agence Bloomberg. Ce volume est inférieur à la moyenne des 5 dernières campagnes agricoles à cause des retards et au caractère erratique des précipitations qui sont tombées de mars à mai, perturbant le processus de germination des cultures. Pour terminer cette minute éco, au Sao Tomé et Principe, le gouvernement veut négocier une remise de dette de plus de 300 millions de dollars auprès de ses créanciers. La nouvelle mesure vise à soulager les finances publiques du poids de la dette extérieure qui a suscité de nombreuses inquiétudes de la part des bailleurs de fonds. D'après le FMI, la dette cachée du précédent gouvernement de plus de 70 millions de dollars, révélée il y a quelques jours, aurait d'ailleurs atteint près de 3% du PIB. Cela a contribué à fragiliser les finances du pays avec une dette catégorisée comme étant pratiquement incontrôlée par le FMI.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal éliminé du mondial de basket.
Les Lions de la Teranga ont concédé leur deuxième défaite dans la compétition en s'inclinant face à l'Australie 81-68. Avec ce deuxième échec de rang, le Sénégal ne verra pas le deuxième tour, tout comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, eux aussi éliminés après deux matchs. Les Américains, fragilisés par l'absence de leur star, sont passés à un chevet de la défaite dès leur deuxième match, s'imposant de justesse 93-92 après prolongation face à la Turquie. Pour leur dernier match aujourd'hui, l'Angola joue face aux Philippines, la Côte d'Ivoire face à la Pologne et le Nigeria devant la Corée du Sud.
Djamel Belmadi espère pouvoir jouer un jour contre l'équipe de France.
Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, championne d'Afrique, a déclaré vouloir jouer un jour un match amical contre l'équipe de France, championne du monde, hautement symbolique en raison de l'histoire commune aux deux pays. La dernière rencontre France-Algérie a eu lieu en octobre 2001. Le match avait été interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters algériens, alors que le score était de 4-1 pour la France. Né à Champigny-sur-Marne, Belmadi avait participé à la rencontre sous le maillot algérien, inscrivant même l'unique but des Fenech.
La FIFA va diffuser des matchs africains de qualification au Mondial 2022.
Des matchs de qualification pour le Mondial 2022 de la zone Afrique seront diffusés par l'instance mondiale sur son site internet et sa chaîne YouTube. D'après la FIFA, plusieurs rencontres du premier tour des qualifications seront diffusées en direct entre aujourd'hui et le 10 septembre. L'instance n'a toutefois pas précisé la liste des matchs concernés. Ces rencontres préliminaires qui mettent aux prises 28 nations opposeront notamment le Togo aux Comores, la Gambie à l'Angola, le Zimbabwe à la Somalie ou encore le Burundi à la Tanzanie. La FIFA a été chargé par la CAF de la commercialisation des droits de diffusion des matchs de qualification au Mondial 2022 au Qatar et 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.
8 pays encore en course pour l'organisation du Mondial féminin 2023.
Après le retrait de la Belgique et de la Bolivie, 8 pays concourent désormais pour accueillir le Mondial féminin 2023 qui se disputera à 32 équipes. Fin juillet, la FIFA avait annoncé que face au succès retentissant du Mondial 2019 en France et pour favoriser la croissance du football féminin, son conseil a décidé de faire passer le format de la Coupe du Monde 2023 de 24 à 32 équipes. 8 pays dont l'Afrique du Sud se sont annoncés et ont jusqu'au 2 septembre pour confirmer leur intérêt et jusqu'au 13 décembre pour déposer leur dossier de candidature. Le pays hôte sera désigné en mai prochain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Tedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les avocats des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ne sont pas d'accord avec la décision de la justice militaire qui vient de les condamner respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme. La partie civile, elle, est satisfaite de l'issue du procès du coup d'État de septembre 2015, tandis que les populations, elles, sont divisées sur ce verdict. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Les deux cerveaux du coup d'État de septembre 2015 au Burkina, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, devront purger respectivement chacun 20 ans et 10 ans de prison ferme. Ils ont été jugés coupables d'attentat à la sûreté de l'État, de trahison, de meurtre, de coups et blessures volontaires entre autres.
Pour notre part, il n'y a pas de trahison.
Maître Mireille Barry est l'avocat de Djibril Bassolé.
La trahison, c'est de porter des armes contre un État. Et comme tout le monde le sait, M. Bassolé n'a jamais porté d'armes contre l'État de Burkina Faso. Je ne peux pas décider si je fais appel. Il faut savoir que le dossier relève de la décision souveraine de M. Bassolé.
20 ans, c'est excessif.
Maître Mathieu Sommier est l'avocat du général Diendéré.
Nous critiquons la motivation du tribunal. L'attentat à la sûreté de l'État, ça qui est utile. Est-ce qu'il y avait un État légal? Nous avons posé cette question le 16 septembre. Le pouvoir qui était en place le 16 septembre était assis sur une charte et non la Constitution.
Par contre, la partie civile est satisfaite du verdict. Et ce procès est une victoire pour le peuple. Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile.
Dans un procès, il n'y a jamais totalement la vérité, mais qui l'eût cru? Qui eût cru un jour que le général Diendéré, le général Bassolé et tous ces militaires qui, il y a quelques années de cela, étaient les hommes forts de ce pays, pourraient répondre à des questions de simples victimes? Pour nous, déjà, c'est ça, la victoire dans ce procès. Et ce que nous espérons, c'est que ce verdict, ce procès, soit le glas sonné pour tous ceux qui pensent qu'on peut accéder par la force au pouvoir au Burkina Faso, surtout un assassinat. C'est surtout ça, notre grande satisfaction.
Les populations, elles restent partagées sur le verdict de ce procès. Amidou Ouidraogo, un habitant de Ouagadougou.
On s'est dit que nul n'est au-dessus de la loi, bien vrai. Dû à la crise actuelle que nous traversons, je pense qu'on devait attendre pour le moment, essayer d'avoir d'autres solutions, surtout en tant que des généraux du pays. Bon, on sait que pour le moment, on en a besoin de ces gens, afin qu'ils puissent utiliser leur cerveau à notre défense.
Godefroy Sommier est aussi citoyen burkinabé.
Le verdict n'indique pas tout simplement, n'est-ce pas, la durée des peines ou en tout cas, quelque part, sa passivité. Je pense que pour le symbole, ça valait la peine.
Le coup d'État manqué de septembre 2015 avait tenté de renverser le régime de la transition. Une transition entamée après l'insurrection populaire de 2014 qui avait chassé Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Le coup d'État manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Afrique du Sud, des commerces tenus par des Africains ont été brûlés dans la nuit de lundi à Johannesburg. Ces violences xénophobes ont débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment dans le centre de Johannesburg, avant de se propager à d'autres quartiers, puis à Pretoria, la capitale. Dans la province du KwaZulu-Natal, des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont été incendiés. Le président Cyril Ramaphosa a condamné ces violences totalement inacceptables. Pour un état des lieux, Idriss Fall a joint Armand Bokoko, un habitant de Joburg.
Les violences ont repris. C'est un peu surprenant parce que c'est comme une bombe à retardement. Il y a eu des situations de xénophobie ou afrophobie, je peux dire, depuis 2008 et ça s'est repris encore avant les élections. La population commence à s'attaquer aux magasins des étrangers, particulièrement, ils sont ciblés, et aussi les étrangers africains. Il y a eu des cas dans le centre-ville, là, des personnes qu'on a pu brûler vives. C'est comme si c'est un peu orchestré, ça vient du cours à Pretoria, ça va dans les quartiers des périphéries du centre-ville. Il y a des quartiers comme Fordsburg, Maifair, Heathrow, là c'est un quartier là vraiment où il y a beaucoup d'étrangers, et la police est venue intervenir pour essayer de calmer la situation, mais c'est un peu incontrôlable parce que c'est une masse importante de gens qui viennent pour piller. Ça explique aussi une certaine forme de rancœur ou de colère, compte tenu du fait qu'il y a un peu la crise au niveau de ceux qui sont un peu désœuvrés.
Ça vient d'où et que font les politiques, les dirigeants de l'ANC, qu'est-ce qu'ils disent?
Quand nous regardons cela, même les journalistes, c'est un peu choquant puisque c'est comme si en dessous des cartes, il y a quelque chose qui s'est déjà préparé, fomenté pour faire en sorte que on puisse diminuer l'effectif du président en exercice. Il y a des querelles internes, des luttes internes au niveau du parti de l'ANC. Quand on fait l'état de la situation, de la gestion des affaires de l'État, on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués dans la corruption. Maintenant que le président cherche à résoudre le problème de corruption, on s'attaque à lui et c'est comme si on cherche à réduire son autorité.
Donc les violences ne vont pas s'arrêter de sitôt.
Bon, les violences vont s'arrêter parce que les gens qui sont en éduqués, du moment où quelqu'un se met pour leur dire non, arrêtez, oui, ça va s'arrêter. Mais là, nous avons peur de représailles maintenant des Sud-Africains qui sont dans d'autres pays africains, des étudiants nigériens ou nigériens qui disent que non, toutes les affaires des Sud-Africains, on leur a donné un ultimatum de 7 jours. Qu'ils doivent prendre leurs affaires et ramener en Afrique du Sud. Bon, c'est comme une forme de représailles maintenant. Ça, les politiques doivent s'atteler. Parce que si les politiques ne s'attellent pas sur cette situation, ça risque de dégénérer sur toute la région.
Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson a perdu mardi la majorité absolue au Parlement. C'est à la suite de la défection d'un député au moment même où il tentait d'imposer sa stratégie du Brexit en Parlement en ébullition. Les députés de l'opposition et des rebelles conservateurs hostiles à un Brexit dur, le 31 octobre, veulent empêcher la sortie de l'Union européenne sans accord. Eric Manirakiza a joint à Londres le correspondant du service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique, Veniste Nishimi Mana.
Vous savez, Boris Johnson ne possédait qu'une majorité active et d'un siège au Parlement. Il n'a pas seulement perdu sa majorité, car une vingtaine de députés conservateurs se sont ralliés à l'opposition. Il a aussi essuyé un revers cinglant, car par 328 voix pour et 301 voix contre, les députés se sont prononcés pour la motion visant un report de la date du Brexit au-delà du 31 janvier 2020. Et Boris Johnson a immédiatement annoncé qu'il déposerait dès ce mercredi une motion pour des élections anticipées. Et la motion devra être débattue au Parlement et ce n'est pas gagné d'avance car la motion doit réunir 2/3 des voix pour être adoptée. Et si la motion est rejetée, il pourra toujours s'adresser à la Chambre des Lords.
Le Royaume-Uni vit une situation inédite, n'est-ce pas? Le pays est très divisé. Mais Boris Johnson sort la dernière carte des élections anticipées. Jeremy Corbyn ne s'y oppose pas. N'est-ce pas un couteau à double tranchant?
Il veut amener le dirigeant de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn à aller aux urnes car Boris espère les gagner. Il faut rappeler que le Premier ministre n'a plus de majorité au Parlement et il cherche une sorte de légitimité s'il gagne ces élections qu'il souhaite convoquer pour le 14 octobre. Il sait bien que 3 jours plus tard, le 17 octobre, est prévu à Bruxelles une réunion cruciale avec l'Union européenne et c'est donc celui qui sortira vainqueur des élections, qui pourra négocier un accord de Brexit avec Bruxelles? Et à la question de savoir si le pays est divisé, je dirais que oui. Il est divisé entre ceux qui veulent quitter l'Union européenne sans accord, ceux qui veulent un accord et ceux qui veulent tout simplement rester dans l'Union.
Et comment Jeremy Corbyn a réussi ce ralliement anti-Boris?
Eh bien, Jeremy Corbyn a compris qu'il fallait rassembler pour gagner. C'est ainsi qu'il a réuni la semaine passée des dirigeants de tous les partis politiques d'opposition et des représentants des députés conservateurs opposés au Brexit. Et ensemble, ils ont convenu d'une stratégie commune contre le Brexit sans accord. Et Corbyn a très vite compris qu'il ne faut pas tomber, comme le lui conseillait Tony Blair, l'ancien Premier ministre travailliste, qu'il ne faut donc pas tomber dans le piège à éléphant dans lequel le pousse Boris Johnson pour qu'il accepte d'aller aux élections. Jeremy Corbyn veut d'abord que le projet de Brexit sans accord ne soit pas à l'ordre du jour avant de parler d'élections.
C'était Vénus Nishimimana, journaliste à Londres.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy a publié récemment son classement annuel des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Seules 15 universités africaines figurent dans le classement. Sur le continent, l'Afrique du Sud reste en tête. Quels sont les obstacles à un enseignement de qualité en Afrique? Le financement de la recherche dans les universités? Comment adapter l'enseignement supérieur aux réalités du marché de l'emploi? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Avant de terminer, les rythmes africains se répandent dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas que la diaspora qui danse au rythme de l'afrobeat qui suscite un intérêt dans le secteur musical, mais influe sur les marchés de l'Occident, Arzuma Compaoré.
Les rythmes pop d'Afrique atteignent des endroits de plus en plus éloignés et figurent sur des playlists aussi loin que Washington D.C. Fizoïde habite à Washington D.C.
Ma chanson préférée, c'est Follow You. Ouais.
Connu sous le nom d'Afropop ou d'Afrobeat, le genre musical autrefois réservé aux cercles africains a gagné du terrain en Occident. Mercy Chikowore est publiciste.
C'est vraiment formidable de voir des artistes que nous connaissons en Afrique être joués à la radio à New York, à DC ou dans une station de radio de l'Iowa. Et les gens sont vraiment attirés par cette musique.
Ces dernières années, des collaborations transatlantiques avec des stars de hit parade américaines telles que Chris Brown, Drake et Rick Ross ont fortement contribué à l'histoire de l'Afrobeat.
Pourquoi la vie était si compliquée? J'ai tellement aimé, vraiment, je n'ai pas tué que...
Et travailler avec des artistes internationaux célèbres signifie souvent une chance d'être connu mondialement, a déclaré la star camerounaise Salatiel, qui a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande-son du film Le Roi Lion.
Comme ça, pour notre amour, j'étais prêt à vivre ses pages jusqu'à la gare.
Singing on the same song with Beyoncé and
exécuter une chanson avec Beyoncé et Pharrell Williams, cela signifie beaucoup plus de visibilité. Les gens vont se demander qui est cet artiste nommé Salatiel et comment se fait-il qu'il soit sur cet album. Plusieurs groupes africains ont signé des contrats avec de grands labels américains. Iceberg Steam, musicien nigérian.
Ils veulent de ce contenu local parce qu'ils ne l'ont pas là-bas. Nous devons leur donner l'Afrique, en particulier le Nigeria. Nous devons leur partager notre culture. Il est donc primordial pour nous de nous en tenir à nos sons et à notre culture.
Une chose est sûre, l'Afrobeat s'est déjà installé au-delà des frontières africaines, séduisant les fans de plus en plus nombreux.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.